Bien, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Merci d'abord à la librairie Mola et à l'Académie des dirigeants de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir bravé la tempête qui sévit pour venir jusqu'ici. En ce qui me concerne, ça ne m'a pas beaucoup changé puisque j'ai quitté la tempête parisienne pour arriver à la tempête bordelaise qui me paraît presque sympathique à côté. En tous les cas, je suis ravi d'être avec vous ce soir donc pour échanger sur cette question de la génération Y. Alors peut-être avant de commencer, un petit sondage rapide. Qui d'entre vous avait déjà entendu parler de l'expression « génération Y » avant de lire l'invitation? D'accord, donc quand même un certain nombre. Alors, ce que je vous propose, mon ambition ce soir, c'est qu'on ait deux temps, si ça vous va. Un premier temps où je vais essayer de partager avec vous mon expérience sur cette question-là. Et puis un deuxième temps d'échange, peut-être pour que vous me fassiez part de vos expériences, puisque ça m'intéresse beaucoup en tant que professionnel des ressources humaines de voir comment ça se passe dans vos entreprises. Et puis d'avoir vos questions, commentaires, réactions, etc. Peut-être pour en première partie, pour ce qui concerne la présentation, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter rapidement le concept de génération Y et ensuite de faire un zoom sur tout ce qui est ressources humaines, management, si ça vous va. Alors, peut-être pour commençons par le commencement, d'où vient l'expression génération Y? Alors, si je vous dis que c'est la génération qui suit la génération X, vous êtes bien avancé. Alors, je vais vous dire d'où vient l'expression génération X pour commencer. Donc génération X, expression qui a été popularisée par un sociologue américain qui s'appelle Douglas Copeland, qui s'est intéressé à ce qu'on appelait les classes creuses, hein, donc les générations peu nombreuses aux États-Unis, qui sont plutôt nées au milieu des années 60, hein, et qui succédaient à la génération des baby boomers, qui eux, au contraire, étaient très nombreux et donc sous le feu des projecteurs. Et donc ce sociologue s'est intéressé à cette génération X en disant, mais finalement, cette génération, on la connaît pas. Elle est assez peu nombreuse, les politiciens s'y intéressent pas beaucoup parce qu'elle représente pas beaucoup de voix, les industriels et les personnes de marketing ne s'y intéressent pas non plus parce que c'est pas beaucoup de consommateurs, et donc il a dit finalement cette génération on la connaît pas très bien, donc il l'a un peu baptisée d'un X comme une inconnue. Et donc sans grande originalité, les sociologues ont dit ce qui suit X c'est forcément Y, donc la génération Y donc regroupe les personnes qui sont nées donc à la fin des années 70 et jusqu'au milieu des années 90, donc retenez qu'il s'agit des 15-30 ans, hein, clairement, donc ce sont les personnes qui aujourd'hui ont fait depuis peu de temps ou s'apprêtent à faire leur entrée dans l'entreprise. Alors si on essaye de mettre un peu des chiffres maintenant pour illustrer tout ça, lorsqu'on parle de génération Y en France, ça concerne à peu près 13 millions de personnes. Si on compare avec d'autres pays, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, aux États-Unis ça représente 70 millions de personnes, et en Chine ça représente tout de suite 200 millions de personnes, donc c'est forcément assez impressionnant. Alors là je vous ai donné la définition la plus stricte, hein, qui est une définition démographique, les 15-30 ans. Vous connaîtrez peut-être d'autres expressions pour parler de cette génération, on entend parfois l'expression américaine de digital natives, hein, natifs du numérique, en lien avec le fait que la plupart d'entre eux ont grandi dans un environnement fortement lié à Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Donc il y a d'autres termes encore, vous avez le terme d'éco-boomers aussi qui existe, tout simplement parce que les membres de la génération Y sont le plus souvent des enfants de baby-boomers, hein. Comme vous le savez, la génération du baby-boom était une génération exceptionnellement nombreuse d'un point de vue démographique. Eh bien, si la génération Y, elle aussi, est une génération nombreuse, c'est tout simplement parce que ça correspond au moment où les baby-boomers ont eu des enfants. Donc si vous regardez un petit peu les statistiques de natalité, vous voyez qu'il y a un premier pic dans la deuxième partie du XXe siècle, après la guerre, donc le baby boom, et puis à partir de la fin des années 70, au moment de la génération Y, puisque les baby boomers ont eu des enfants. Alors voilà pour la définition purement démographique. Peut-être maintenant, ce que je vous propose, c'est de poser la question de ce qui définit plus profondément cette génération, hein. Quelles sont les grandes caractéristiques qu'on peut retrouver quand on en parle? Alors pour répondre à cette question, je suis obligé de faire un certain nombre de généralisations, donc vous m'en excuserez par avance, mais c'est des généralisations qui sont utiles pour qu'on puisse avoir un langage commun et que vous puissiez réagir. Donc évidemment, j'ai bien en tête qu'il y a des personnes qui ne correspondent pas au portrait robot que je m'apprête à vous faire, mais c'est le propre de la sociologie générationnelle que de généraliser un certain nombre de grandes tendances pour justement en tirer des constats. Alors, Première grande caractéristique de cette génération, ça ne vous surprendra pas, c'est le lien étroit avec les technologies de l'information et de la communication. Hein. C'est une génération qui est très connectée. Alors moi, je dissèque, j'ai pour habitude de disséquer toutes les études qui sortent sur le taux d'utilisation des différents outils informatiques, de l'Internet, et puis des technologies mobiles de façon générale. Et c'est vrai qu'on constate que c'est une génération qui a tendance à avoir une utilisation massive de tout ce qui est Internet et TIC. Technologie de l'information et de la communication. Alors, juste pour vous donner une statistique, il y a une étude qui vient de paraître aux États-Unis sur l'utilisation d'Internet, et donc ils se sont amusés à regarder pour les 15-25 ans, cette fois-ci, la durée de connexion, ce qu'ils appellent la durée de connexion quotidienne, en 2000 et en 2010. Eh bien, c'est une durée qui a tout simplement doublé. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les 15-30 ans passent environ, alors je crois que c'est 3h52, par jour sur Internet. Donc c'est vraiment, ça vous donne une idée du temps et du lien étroit. Donc c'est une génération aussi, liée à ce que je viens de vous dire, c'est une génération qui est une génération de l'instantané. C'est-à-dire qu'elle est habituée à avoir des réponses assez rapidement à tout ce qu'elle se pose comme question. C'est un peu la génération Google. Donc en clair, quand Google met plus de 5 secondes à me donner la réponse, il y a un problème. Alors que effectivement, on peut se souvenir, même moi qui ne suis pas bien vieux, je me souviens qu'à l'époque, quand je faisais des recherches, j'allais en bibliothèque, je commandais des ouvrages, j'attendais qu'ils arrivent, et je les rapportais. Autant vous dire que c'est une période qui est préhistorique pour toute cette génération qui était vraiment adepte de habituée à avoir l'information de façon instantanée. Et ça pose problème, vous l'avez probablement vu dans vos entreprises, puisqu'une fois qu'ils arrivent en entreprise, ils ont toujours ce goût de l'instantané. Et ce qui est marrant, c'est que les parents, les professeurs et les employeurs font le même constat et me disent dans les mêmes termes, ils veulent tout tout de suite. Donc ça, c'est aussi à mettre en lien avec cette habitude d'avoir l'information de manière instantanée, un peu la génération Google. Alors, autre grande caractéristique qui concerne cette génération, c'est l'aspect mondialisé. C'est une génération qui est vraiment... c'est une génération de la globalisation. Alors il y a plusieurs facteurs qui concourent à ça. Peut-être le premier, c'est simple, c'est une génération qui, en tout cas en Europe, a grandi sans connaissance de frontières. Donc il n'a jamais fallu de visa pour voyager en Europe. Donc ça, c'est quand même, ça paraît évident maintenant, mais c'est pour eux, ça veut dire que l'horizon de référence était naturellement plus grand. De même, on a assisté à un développement formidable de tous les programmes académiques d'échange, type Erasmus, qui ont permis à plusieurs millions d'étudiants maintenant de voir au-delà de leur propre pays. Et puis, dernière grande tendance qui concourt à ça, c'est le développement de l'industrie du transport low cost, hein, que ce soit les vols ou les cars ou autres, qui font qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on peut voyager assez facilement en Europe, sans visa et, j'ai envie de dire, sans même forcément avoir beaucoup de moyens. Donc tout ça, ça concourt effectivement à ce que l'horizon de référence de cette génération ne soit plus ni la ville, ni la région, ni le pays, mais vraisemblablement le monde. Et ça, c'est assez nouveau, puisque vous avez des jeunes qui peuvent prendre position sur des grandes tendances ou des événements qui, a priori, ne les concernent pas, ou du moins, on pourrait dire, ça ne vous concerne pas, puisque ça se déroule à des milliers et des milliers de kilomètres, et pourtant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec Facebook, on peut avoir maintenant des amis, entre guillemets, dans beaucoup de pays sans que ce soit forcément difficile. Donc ça, c'est la deuxième grande caractéristique, l'aspect génération mondialisée. Si j'essaye de faire le portrait robot, je pense qu'il y a autre chose qui revient, c'est l'aspect, on va dire, mobile. Hein. C'est une génération qui est vraiment tout le temps en mouvement. Et donc ça représente des opportunités pour les entreprises que vous représentez, puisque forcément, il est de plus en plus difficile pour une entreprise aujourd'hui d'être recroquevillée, entre guillemets, sur son territoire, son marché, etc. Et c'est une génération qui, de ce point de vue-là, représente une opportunité, parce qu'elle est habituée à manipuler plusieurs concepts, plusieurs cultures de référence, et donc ça, c'est probablement un atout. Alors, autre caractéristique qui revient souvent, c'est le côté... qui fait plusieurs choses en même temps. Alors polychronique, j'aime pas ce mot-là, mais c'est pas très beau, mais c'est un peu ce qui est dit, c'est leur capacité à faire plusieurs choses en même temps. Alors ça, c'est pour le côté positif. D'ailleurs, ce sont souvent les professeurs qui me renvoient ça, en me disant, de temps en temps, je les vois qui font des textos comme ça sous la table, et donc je leur dis, est-ce que vous pouvez me répéter ce que je viens de dire ? Et trois fois sur quatre, ils peuvent. Donc c'est un côté un peu perturbant. Donc ça, c'est le côté positif, capacité à faire plusieurs choses en même temps. Donc vous avez certains psychologues qui ont qui essayent de comprendre le pourquoi du comment et qui disent que depuis leur plus jeune âge, ils ont été habitués à faire leurs devoirs en écoutant en même temps leur MP3 et puis en regardant la télévision toutes les 5 minutes. Donc voilà, ils ont développé cette capacité à faire plusieurs choses en même temps. Donc pour le côté négatif, à l'inverse, et ça vous devez probablement le rencontrer en entreprise, on a pas mal de difficultés de concentration, et notamment la capacité à se concentrer sur un temps long est plus difficile qu'avant. C'est-à-dire que si vous prenez des Y et que vous les mettez 3 heures dans une salle à réfléchir, sans pause, ça va être long, très très long. Et parfois même, il faut être honnête, 2 heures, voire 1 heure, ça peut être long aussi si vous ne faites pas de pause. Donc vous voyez, ça c'est le côté inverse. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres grandes caractéristiques? Oui, c'est une génération qui aime beaucoup tout ce qui est... c'est une génération de réseau au sens où elle est plus dans des relations horizontales, hein, c'est-à-dire d'égal à égal, que dans des relations hiérarchiques. Donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de ressources humaines et de management, mais c'est une génération qui spontanément va être à l'aise avec des rapports très verticaux, sans notion de hiérarchie, un peu comme le principe du peer-to-peer sur Internet, où on est vraiment en interaction au même niveau, il n'y a pas de chef qui va décider si ce que vous dites est intéressant ou pas, c'est finalement la communauté des gens qui décide si ce que vous dites a de l'intérêt ou pas. Donc ça c'est peut-être les grandes caractéristiques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, écoutez, on y reviendra, mais je pense que c'est les principales caractéristiques. Oui, si, il y en a une qui me revient, c'est l'aspect émotionnel. Alors, on parle souvent du QI en France, on aime beaucoup ça, on est très rationnel. Eh bien, la génération Y, c'est une génération qui est beaucoup dans le QE, dans le quotient émotionnel. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils amènent beaucoup, ils ont tendance à amener leurs émotions dans le cadre de l'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau parce que les managers, jusqu'à présent, ont plutôt été habitués à conserver un masque, hein, professionnel en toutes circonstances et à ne pas montrer leurs émotions. Or là, ce que me disent les managers de proximité, c'est que de plus en plus, par exemple, à l'occasion des entretiens annuels de performance, ils vont avoir des manifestations d'émotions, alors que ce soit des crises de colère ou des crises de larmes. Mais en tous les cas, il y a une espèce de retour de l'émotion avec cette génération d'entreprise. Donc ça, c'est une des difficultés à gérer pour les managers. Voilà un peu pour ce portrait robot. Alors, à ce stade, généralement, il y a des gens qui me disent « Mais vous savez quoi ? Moi aussi, je suis adaptable. Moi aussi, je me sens mondialisé. Moi aussi, j'utilise Internet, etc. » Et donc, en gros, se pose la question de ce qui fait la différence entre les générations. Qu'est-ce qui fait que les membres d'une génération sont différents d'une autre ? Alors, la réponse est simple et elle est apportée par les sociologues, c'est que les générations, et plus exactement les individus de différentes générations, sont fortement influencés par le contexte dans lequel ils grandissent. Hein, c'est un peu cruel en matière de sociologie, mais tout se joue dans les 30 premières années. Hein. Après, apparemment, on est trop rigide, on n'évolue plus qu'à la marge, et notre vision du monde est déjà assez solidement formée. J'en vois qu'ils rigolent, il y a peut-être des désaccords, on aura l'occasion d'y revenir. Les sociologues nous disent qu'on est influencé de façon majoritaire par quoi ? Par les grandes tendances, les grands événements, et les grands leaders et les grands développements technologiques qui interviennent durant nos 30 premières années. Donc si on applique cette définition, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'appliquer cette définition en comparant les baby-boomers d'une part, donc les parents, et puis les membres de la génération Y d'autre part, donc les enfants. Si on applique cette définition, on regarde pour la génération Y, c'est une génération qui a été fortement influencée par le développement d'Internet et des technologies de l'information et de la communication, par la globalisation des marques et la globalisation de façon générale. Aujourd'hui, on a des marques qui sont devenues globales, hein, c'est-à-dire que vous prenez un jeune de n'importe quel pays, vous lui dites Starbucks, McDonald's, Nike, il comprend très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a d'autres événements. Alors, aux États-Unis, par exemple, un des événements fondateurs, comme disent les sociologues, c'est le 11 septembre. Et d'ailleurs, les Américains appellent parfois cette génération la génération 9/11, puisque c'est la génération qui a vu l'effondrement des tours jumelles dans sa prime jeunesse. Donc voilà un peu pour prendre l'exemple de la génération Y. Si maintenant on oppose avec la génération des baby boomers, donc de leurs parents, c'est une génération qui a plus été influencée par la guerre du Vietnam ou la guerre froide, sur un plan de vue politique. Au niveau culturel, vous avez l'influence de la musique rock, qui a été très forte, hein, évidemment, les Rolling Stones, les Beatles, etc. Vous avez Alors, en termes de grands événements, vous avez par exemple le premier pas de l'homme sur la Lune. Alors ça, pour n'importe quel baby boomer, vous pouvez lui demander ce qu'il faisait, il peut vous dire qui il était, ce qu'il faisait ce soir-là, avec qui il l'a vu. C'est vraiment quelque chose, un des événements qu'il a en mémoire de façon assez ancrée. Alors tout ce que je vous dis, ces grands événements comme ça peut sembler un peu anecdotique. On se dit au fond, est-ce que ça a de l'importance? Ça peut en avoir. Je vais vous prendre un exemple justement de la NASA. Donc la NASA, vous connaissez tous cette entreprise spatiale américaine qui a un petit problème RH de pyramide des âges qui se résume comme ça avec cette statistique. La part des moins de 40 ans chez eux représente 16%. Donc je sais pas si vous visualisez, mais c'est assez à court, à moyen. Voilà, monsieur dit c'est mort, mais c'est vrai que effectivement ça ressemble à une étoile, ça brille toujours, mais si on le projette sur les 20 prochaines années, c'est compliqué. Donc ils se sont posé la question, ils ont fait pas mal d'enquêtes, ils ont dit mais qu'est-ce qui fait qu'on a plus de jeunes chez nous? Et en fait ils se sont rendus compte que les raisons pour lesquelles les gens les avaient rejoints à l'époque, c'est qu'ils avaient eu justement la vocation, entre guillemets, en regardant ce fameux premier pas sur la Lune. Là où les jeunes n'avaient pas eu cette vocation puisqu'ils n'avaient pas assisté à cet événement fondateur. Et donc, au final, ils avaient d'autres perceptions liées à la NASA. Ça pouvait être des perceptions plus négatives, notamment avec les accidents de navettes spatiales, par exemple. Mais en tous les cas, ils n'avaient pas ce même événement fondateur ancré. Donc voilà, pour vous dire, le contexte de départ va influencer par la suite la vision du monde et donc la vision en entreprise. Ça, c'est le postulat de la sociologie générationnelle. Voilà un peu pour les grandes différences, même si encore une fois, et c'est bien normal, vous avez des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le profil qui est fait de leur génération, et c'est tout à fait normal. À titre personnel, je connais des grands-parents qui sont surdoués de l'informatique et des jeunes qui n'aiment pas du tout les téléphones portables. Ça ne remet pas en cause le principe, c'est simplement que vous avez, comme dans toute moyenne, des écarts à la moyenne. Et donc, j'ai envie de dire, si vous vous reconnaissez pas dans le profil de votre génération, c'est pas grave, c'est normal. Il y a toujours des écarts. Et ce qui est intéressant, c'est la démarche générationnelle, ça consiste à identifier plutôt ce qui relie les membres d'une génération plutôt que ce qui les sépare. Donc c'est une approche qui est volontairement qui fait des généralisations. Voilà un peu pour les différences entre générations. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit zoom sur l'aspect technologique. Je vous ai dit que la génération Y était une génération assez connectée, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc je vais vous donner peut-être quelques exemples qui sont issus d'une étude qui a été faite aux États-Unis qui s'appelle les générations en ligne. Donc vous voyez, tout est dit. Et ils sont amusés à donc prendre différentes classes d'âge et à leur demander qu'est-ce que vous utilisez comme outil informatique, quelles sont les pratiques que vous pouvez avoir en ligne. Et donc à partir de là, ils ont fait des statistiques générationnelles qui permettent justement d'illustrer les différences de pratiques entre générations. Alors j'ai pas toutes mes notes, à vrai dire j'ai même aucune note, donc je vais vous donner ces statistiques de mémoire, mais juste pour que vous ayez l'idée. Donc quelques grandes statistiques qui reviennent, c'est premièrement la question des sources d'information. Alors ça, c'est intéressant parce que si on regarde la source d'information alors eux, ils l'ont fait sur les 18-29 ans, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que la première source d'information pour les 18-29 ans, c'est l'Internet. Avant la télévision, avant la radio et avant tous les autres moyens traditionnels type livres, magazines, etc. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une exception. C'est-à-dire que pour l'ensemble des autres classes d'âge, la télévision reste le premier moyen d'information. Donc vous voyez bien que pour la génération Y, c'est une des spécificités, c'est l'Internet dépasse la télévision. Alors au passage, c'est intéressant d'ailleurs parce que ces statistiques ont été reprises quasiment de façon identique par un sondage qui a été fait par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, qui montre que les jeunes Français sont en fait ceux qui consomment le moins de télévision. Donc ça, c'est amusant parce que c'est pas l'image qu'on en a. On a souvent l'idée de cette image un peu d'épinal des jeunes qui sont vraiment plantés devant la télévision. Et alors que statistiquement, c'est la classe d'âge qui regarde le moins la télévision. Alors, cela dit, il faut nuancer puisque c'est la génération qui passe le plus de temps devant un écran, mais plus devant la télévision. Donc c'est différent en termes de pratique, puisqu'on est plus derrière un écran, on a tendance à être plus actif, à aller chercher de l'information. C'est pas la même démarche que d'être devant un écran. Donc voilà pour la première item qui concernait les sources d'information. Autre item qui a été étudié par ce sondage américain, c'était la question de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc vous connaissez tous probablement les Viadeo, Facebook, LinkedIn et autres réseaux sociaux, donc qu'ils soient à vocation professionnelle ou à vocation plus personnelle, loisir. Donc là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un rapport qui était de 1 à 2 entre l'utilisation des réseaux sociaux par donc ces jeunes générations et puis par les anciens. Et alors, ce qui est amusant, c'est que depuis, ils ont creusé un peu le sondage et ils se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui explique cette différence d'utilisation ? Alors, au départ, il y a 2-3 ans, la différence était essentiellement expliquée par des différences de pratique. C'est-à-dire qu'en clair, les anciens ne savaient pas utiliser les réseaux sociaux type Facebook, Viadeo, etc. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage technologique des seniors importants. Mais ces différences d'utilisation persistent. Donc c'est ça que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des seniors par exemple qui savent maintenant potentiellement aller sur Facebook, mettre leur profil avec leur CV en ligne, mais qui ne souhaitent pas le faire. Donc c'est plutôt une différence de volonté. Hein. Quand on les prend en interview, ils nous disent non, écoutez, moi je ne veux pas que ma vie. Alors ils appellent ça leur vie personnelle. C'est intéressant aussi puisque la notion de vie personnelle n'est pas la même. Mais si vous prenez des seniors, ils vont vous dire moi je ne veux pas que ma vie personnelle ou ma vie privée figure en ligne. Là où des jeunes vont faire ça de façon assez naturelle, sans se poser la question de est-ce que c'est confidentiel ou pas, c'est une démarche qui est plus naturelle. Donc pareil, on retrouve les mêmes écarts sur l'utilisation d'autres outils comme les blogs. Alors peut-être retenez cette statistique-là. La part des membres de la génération qui ont leur propre blog, c'est 20%. Donc un cinquième des jeunes, en gros, écrivent un blog, alors soit sur leur vie personnelle, soit sur d'autres sujets. Alors que vous avez une proportion qui est de 7% pour les seniors. Donc c'est un rapport de 1 à 3, donc là encore on retrouve une différence de pratique assez importante entre les générations. Donc vous l'avez compris, génération plus connectée, plus sur le net, qui utilise à peu près tout le temps les technologies. Alors une autre étude qui est marrante, qui a été faite aux États-Unis sur l'utilisation des SMS, donc des textos en clair. Et donc ils se sont rendus compte que le nombre de SMS moyen envoyé par un adolescent, je crois que c'est de 200 SMS par semaine, vous l'avez lu ? Enfin, je sais pas pour vous quelle est votre utilisation du SMS, mais personnellement le chiffre est assez vertigineux pour moi. Je crois qu'ils avaient fait un calcul même par heure, je crois que ça représentait 4 ou 5 SMS par heure éveillé. Voilà, donc sachant que de ce que me disent les professeurs, ils ont tendance à s'envoyer des SMS parfois même quand ils sont juste à côté. Donc vous voyez, c'est une différence de pratique qui est encore assez intéressante. Donc voilà, ça c'était juste pour vous faire un petit zoom sur la partie technologique, puisque c'est vraiment une génération qui est très étroitement connectée. Alors quelle conclusion par rapport à cet aspect technologique ? Moi j'ai une théorie par rapport à cette génération, c'est que c'est une génération qui a une conception inversée de la notion de virtuel. Hein, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui, quand on écoute les médias traditionnels type télévision, journaux, etc., quand on nous parle de monde virtuel, on fait référence généralement à Internet, à Second Life, Facebook, etc., on parle de monde virtuel. Mon avis, c'est que l'inverse, pour les membres de la génération Y, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que si vous les prenez dans une pièce et que vous leur coupez l'accès au mail, vous leur coupez l'accès à Facebook, vous leur coupez l'accès à MSN, pour eux, ça devient très rapidement très virtuel. Hein, c'est-à-dire que eux sont dans un environnement, ils baignent dans un environnement technologique où ils ont un lien quasiment constant avec leur communauté, donc leurs amis, leurs connexions de réseaux sociaux. Donc si vous leur coupez cet accès, donc pour eux, ça devient assez rapidement virtuel. Donc c'est vraiment une conception qui est inverse. Peut-être une autre conséquence, cette fois-ci pour les entreprises, il y en a plusieurs. La première conséquence, c'est c'est une nouveauté, c'est que vous avez des jeunes aujourd'hui qui arrivent en entreprise avec certaines connaissances. Donc ça, on n'y réfléchit pas, mais c'est assez nouveau. C'est-à-dire que traditionnellement dans l'entreprise, et j'ai envie de dire ça a toujours été comme ça, les jeunes diplômés ou pas arrivaient en ne connaissant rien. Et c'était admis, hein, c'est-à-dire que vous sortiez d'école, vous ne connaissiez rien, vous appreniez petit à petit votre métier de votre supérieur qui lui savait plus que vous sur tous les sujets. Aujourd'hui, les jeunes continuent d'apprendre sur tout ce qui est partie métier, secteur, savoir-faire, mais ils ont des poches de connaissances, par exemple sur l'utilisation des technologies, qui peuvent être supérieures à leurs responsables. Donc ça, c'est assez perturbant parce que vous avez des responsables qui ne peuvent plus être la référence technique sur tout. Et donc ça, c'est à la fois perturbant, mais c'est à la fois une opportunité, puisque ça permet de faire, par exemple, moi ce que j'appelle des systèmes de tutorat croisés, c'est-à-dire où vous avez un jeune qui va apprendre d'un expérimenté sur tout ce qui est métier, connaissance du secteur, etc., mais où le jeune va pouvoir aussi transmettre des connaissances, par exemple, sur l'utilisation d'Internet et des technologies. Donc ça, c'est une opportunité aussi. Et alors, dernière conséquence sur la partie technologique, je pense que c'est les entreprises aujourd'hui doivent avoir un discours de vérité hein, concernant les technologies. Donc là, je vais vous prendre une anecdote. À l'époque, il y a 2-3 ans, on faisait pas mal de recrutement sur Second Life. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Second Life, c'est un espèce de monde virtuel dans lequel les particuliers comme les entreprises évolue au travers d'un avatar, donc d'un espèce de petit personnage qui se crée, et donc c'est un espèce de monde virtuel uniquement sur Internet. Et donc ça a été très à la mode il y a quelques années, ça a un peu passé depuis, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'entreprises qui s'étaient mis à recruter par le biais de ce monde virtuel, pour le coup. Il y avait une jeune diplômée notamment qui a été recrutée par une grande banque par ce biais-là. Et donc, en arrivant en entreprise, on lui a dit « Bah non, désolé, vous pouvez pas avoir accès à Facebook, vous pouvez pas avoir accès à vos mails perso, vous pouvez pas avoir accès à Internet, bref, en gros, vous pouvez pas avoir accès à grand-chose. » Et donc là, il y a eu un espèce de décalage un peu profond entre ce qui avait été, entre guillemets, promis, hein, la façon dont l'employeur s'était adressé au candidat, de façon très technologique, laissant penser qu'il allait avoir un environnement identique dans l'entreprise, et puis l'arrivée dans l'entreprise qui, elle, était très différente, puisque déconnectée totalement des outils technologiques. Donc peut-être le seul conseil qu'on peut donner aux entreprises, c'est de vraiment d'être honnête dans ce qu'elles sont et dans leur discours employeur. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas technologique, c'est pas grave, mais je pense qu'il vaut mieux le dire, de manière à pas créer de promesses déceptives, comme disent les gens du marketing. Voilà un peu pour l'aspect technologique. Ce que je vous propose, c'est de faire un zoom maintenant sur la partie plus ressources humaines management. Alors, quelques éléments démographiques pour qu'on se repère. On parle souvent du changement, du renouvellement générationnel, du départ en retraite, mais on a rarement des statistiques. Alors moi, je vais vous en donner une, et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est très facile à retenir. C'est 1 sur 3. Alors, 1 sur 3, c'est quoi ? C'est un calcul qu'a fait l'INSEE. L'INSEE s'est amusé à regarder la population active en 2005 et a fait une projection avec des calculs en 2020. Et en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que entre 2005 et 2020, vous avez un tiers des actifs qui vont partir en retraite. C'est facile à retenir. Donc, un tiers des actifs présents en 2005 ne seront plus là en 2020. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un taux de retrait qui est très important et qui, dans certains secteurs, peut monter à 40%, voire 50%. Je pense notamment au secteur bancaire, au secteur de l'assurance, qui vont connaître un profond renouvellement générationnel. Donc ça, c'est le premier fait, c'est renouvellement générationnel puissant. Autre fait, c'est que le renouvellement générationnel va prendre du temps. C'est-à-dire que l'insertion se fait année par année, ce qui veut dire que pour les prochaines années, vous allez avoir de plus en plus de cohabitation générationnelle. C'est-à-dire que de plus en plus dans l'entreprise, vous allez avoir un mélange entre des jeunes qui viennent d'arriver et des gens qui sont en toute fin de carrière. Et donc on va avoir 3 voire 4 générations dans l'entreprise, ce qui n'était pas arrivé précédemment. Donc ça pose plein de questions sur évidemment vivre et travailler ensemble, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes référentiels. Donc je voudrais vous le donner comme ça, c'est le taux de chômage des jeunes. Donc en Europe, il est assez élevé. La France fait partie malheureusement du trio de tête, hein, je crois qu'ils sont, on est à 22% à peu près. Le pire, je crois que c'est l'Allemagne avec à peu près 30 à 32%. Et les meilleurs élèves, je crois que c'est les pays du Nord, comme toujours, qui s'en sortent mieux que les autres. Alors, pourquoi je vous donne cette statistique-là ? C'est pas pour faire dans la sinistrose ambiante, c'est plutôt pour vous souligner un paradoxe. Le paradoxe, c'est que ça devrait être très facile pour les entreprises et les managers. Il devrait même pas y avoir de questions de génération Y, puisqu'on a vu le marché de l'emploi aussi sinistré, ça devrait être coulé de source. Les managers devraient pouvoir, entre guillemets, donner leur cas de volonté, et les jeunes devraient s'exécuter parce que le contexte est très mauvais. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Et c'est un paradoxe qui est assez intéressant, c'est-à-dire que quand bien même vous avez un environnement de l'emploi qui est pas bon, vous avez des managers qui ont jamais eu autant de difficultés pour attirer, pour fidéliser et pour manager. Donc ça, c'est vraiment un premier paradoxe que je voudrais partager avec vous. Voilà un peu pour ce portrait un peu de démographie du travail. Ce que je voudrais vous donner maintenant, c'est quelques évolutions sur les attentes de ces jeunes vis-à-vis du travail. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient de nouvelles attentes. J'aimerais en voir certaines avec vous. Et puis tout à l'heure, on aura l'occasion de voir ça avec vous. Vous me direz si ça fait écho à ce qui se passe dans vos entreprises, ou s'il y en a d'autres d'ailleurs. En tous les cas, la première attente qui me vient à l'idée, c'est la notion d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, ils connaissent pas du tout l'expression, mais ils ont très bien compris le concept. Ça veut dire quoi en clair? Pour eux, ça veut dire avoir une vie en dehors du travail. Et ça, c'est vraiment marquant, c'est-à-dire que, et ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de CSP+, jeune diplômé, jeune moins diplômé. Moi, je travaille avec des gens qui embauchent, des polytechniciens et d'autres qui sont dans la boulangerie-pâtisserie, et ils me disent tous la même chose, à savoir, passer une certaine heure, ils souhaitent partir, faire autre chose, du sport, des associations, que sais-je, de la console, n'importe quoi, mais ils ont envie d'avoir une vie en dehors du travail, et j'ai envie de dire, ils ont tendance à l'appliquer de façon assez ferme. Notamment, c'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est la façon dont on dit au revoir dans une entreprise. À l'époque des baby boomers, c'était plutôt est-ce que je peux partir, chef? Il y a encore 10 ans, c'était je pars, est-ce que c'est il y a un problème, est-ce que vous avez encore besoin de moi? Et maintenant c'est au revoir. Quand on dit au revoir, hein, c'est vrai que vous avez beaucoup de jeunes qui ont tendance à partir, donc ça hérisse le poil des managers, mais ils partent sans dire au revoir parce que c'est l'heure. Mais en tous les cas, c'est la façon de dire au revoir, c'est souvent intéressant. Mais en tous les cas, retenez que c'est pas. On lit beaucoup ça dans les magazines, mais pour eux, c'est vraiment une attente qui est très forte et ils sont pas. Et ça crée souvent des malentendus. C'est-à-dire que traditionnellement, le critère pour évaluer quelqu'un et pour évaluer son niveau d'implication dans l'entreprise, c'est souvent l'implication horaire. Sous-entendu, une personne reste tard, c'est donc qu'elle est motivée. Pour eux, c'est totalement décorrélé. C'est-à-dire que vous pouvez rester tard, être présent très longtemps, mais ne pas du tout être impliqué. Et au contraire, on peut tout à fait être là de 9h à 5h, être extrêmement motivé et impliqué dans votre travail. Donc pour eux, ils ne font pas du tout le lien entre temps de présence et niveau d'implication. Là où leurs managers ont tendance à leur dire « tu pars à 5h, donc c'est bien que tu n'es pas motivé ». Donc ça, c'est le premier quiproquo qui est souvent dans les relations générationnelles, c'est ce qu'on peut en déduire du temps de présence dans l'entreprise. Autre attente qui, d'après moi, est en train d'évoluer, c'est évidemment la notion de hiérarchie. Alors, traditionnellement, la hiérarchie, c'est assez simple, c'est pyramidal. Vous avez un chef, N+1, N+2, N+3, N-1, N-2, N-3. Bref, vous avez une belle pyramide, vous savez qui est votre responsable, vous savez où prendre des ordres, et les choses sont assez officielles, entre guillemets, vous avez des organigrammes. Et ben pour la génération Y, malheureusement, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en tant que manager, vous aurez beau avoir sur votre bureau marqué responsable de quelque chose, vous appelez responsable monde ou que sais-je, eux vont accorder la légitimité à des managers qui vont reconnaître. Et ça, c'est assez perturbant, puisqu'en tant que manager, souvent vous allez devoir gagner, entre guillemets, votre légitimité auprès de jeunes qui, par définition, sont inexpérimentés, ou en tout cas beaucoup moins expérimentés que vous-même. Donc ça, c'est un peu perturbant. Néanmoins, c'est, on va dire, une nouvelle vision de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître des managers dont ils sentent qu'ils sont capables de les faire progresser, dont ils sentent qu'ils vont pouvoir apprendre. Et donc parfois, ça correspondra à l'organigramme, mais parfois pas. Hein, et ça, c'est assez dérangeant parfois. Et ça se manifeste aussi de façon différente, c'est que ce sont des jeunes qui sont beaucoup moins gênés pour donner leur avis sur des décisions qui ont été prises très au-dessus d'eux. Hein, c'est-à-dire que, même si encore une fois je suis pas vieux, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, il me serait pas venu à l'idée de dire je trouve que telle décision du comité de direction n'a pas de sens parce que, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus en entreprise, vous avez des jeunes qui sont là depuis 1 an, voire 6 mois, voire des stagiaires qui vont dire bah moi je trouve que tel axe de la stratégie c'est assez. J'en vois qui rigolent, donc je pense que ça fait écho à ce qui se passe chez vous. Vous en avez aujourd'hui qui disent bah moi je trouve que ce qu'a dit le président c'est pas très bien pour telle et telle raison. Donc souvent ça crée un blanc en entreprise parce qu'on n'est pas habitué à ce que le commentaire provienne entre guillemets du bas de l'échelle, mais en tous les cas eux se sentent assez à l'aise à l'idée de dire ce qu'ils ont en tête. Et d'ailleurs, autre quiproquo, c'est souvent perçu comme un concept de supériorité mal placée, et de leur point de vue c'est pas du tout ça. Quand ils donnent leur avis, c'est ni pour faire la révolution ni pour dire je suis plus intelligent, mais c'est souvent pour uniquement échanger et donner leurs sentiments. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, si jamais vous arrivez à avoir un échange avec eux et à, entre guillemets, à les convaincre, ils deviendront les premiers apôtres
entre guillemets, de la décision qui a été prise. Mais ils peuvent avoir tendance à chatouiller un petit peu cette décision pour vous challenger, voir si vous êtes un peu sûr dans vos bases, ce qui est aussi dérangeant. Alors voilà pour l'attente de hiérarchie qui elle aussi évolue. Qu'est-ce qui évolue? C'est une génération qui est beaucoup plus en demande de sens au travail. Alors ça c'est... D'ailleurs, les Américains jouent volontiers sur les mots en disant Generation Y, génération pourquoi. Et ça, on peut le constater, notamment quand on donne du travail à un jeune aujourd'hui. Si vous lui demandez, est-ce que tu peux m'apporter tel dossier? Vous allez avoir tout de suite, ah oui, d'accord. Mais pourquoi? Ah, bah, c'est parce que je travaille sur l'organisation d'une conférence. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Bah, parce que on va travailler sur la génération Y et la façon dont on peut. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Donc, systématiquement, quand vous n'expliquez pas la finalité du travail que vous donnez, vous allez avoir un retour immédiat qui est le pourquoi. Et ça, c'est dû à une attente qui est plus forte chez cette génération de comprendre le pourquoi elle travaille et à quoi sert son travail. Donc, c'est pas évident à gérer parce que c'est une quête qui est quasi philosophique et qui est nouvelle pour les managers. Il y a 15 ans, quand vous managez quelqu'un, vous pouviez dire, apporte-moi le dossier X, et vous n'aviez pas forcément, entre guillemets, à expliquer ni à vous justifier, le dossier venait. Pareil pour les décisions, si on vous disait, ça vient d'en haut, le responsable a décidé, j'ai envie de dire, ça fermait la discussion le plus souvent. Alors que là, évidemment, vous l'avez compris, il y a un besoin de comprendre. Et ça met un peu la pression sur les managers qui doivent être capables aujourd'hui d'expliquer pourquoi ils prennent une décision et d'expliquer en quoi le jeune, par son travail, va contribuer à accomplir quelque chose de plus vaste. Voilà pour quelques évolutions d'attente. Je réfléchis, il y en a d'autres. Oui, c'est peut-être des attentes qui ne sont pas uniquement business aujourd'hui. Et ça, c'est souvent des responsables recrutement qui me le rapportent. Donc ça fait partie, ils ont de ce qu'ils appellent des questions qui fâchent lors des entretiens de recrutement. Donc ils me font la gentillesse de me les renvoyer par mail. Donc j'ai souvent le palmarès des questions qui fâchent. Alors vous avez bien sûr des questions traditionnelles sur la rémunération. Vous avez est-ce que ah oui, alors les questions qui fâchent, vous avez dans l'ordre, c'est vous avez beaucoup de jours de RTT. Elle est bien votre mutuelle. À partir de quand on peut prendre des vacances? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a bon bref, il y a un certain nombre comme ça. Oui, c'est combien vos tickets restaurant? Je sais pas, faut que vous me donnerez les vôtres, moi je suis toujours preneur si vous en avez. Enfin bref, cette recruteuse-là me donnait un autre exemple qui était alors elle me disait, elle disait, c'était marrant, elle me disait, mais pourtant c'est un centralien, donc sous-entendu quelqu'un qui devrait rentrer dans le moule, etc., qui avait fait beaucoup d'études, etc. Et donc l'entretien se passe très bien, pas d'accroc au niveau salaire, bref, tout se passe bien. Et puis, quasiment en fin d'entretien, le centralien lui dit, mais au fait, est-ce que vous faites le congé solidaire? Alors le congé solidaire, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la possibilité pour un collaborateur de prendre, alors ça dépend, 6 mois, 1 an, après une certaine durée, pour faire un projet humanitaire. Donc concrètement, le collaborateur est en disponibilité de l'entreprise. Alors parfois il est un petit peu rémunéré de façon symbolique, mais en tous les cas, il a la possibilité de s'absenter pour une longue durée pour faire cette action humanitaire. Donc inutile de vous dire que la mâchoire inférieure de la recruteuse s'est déboîtée. Et tout ça pour vous dire que de plus en plus, vous allez le voir, ce sont des questions qui reviennent. Vous avez de plus en plus de questions non business, entre guillemets, qui reviennent dans l'entretien. On peut dire, alors qu'est-ce que vous faites pour le handicap? C'est quoi votre politique sur la diversité? Autant de questions qui, auparavant, n'avaient pas leur place dans l'entreprise, qui aujourd'hui, avec cette génération, se multiplient. Donc malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas ces questions, j'ai envie de dire, il va falloir vous habituer, parce qu'il y a de fortes chances qu'en tant que manager, vous y fassiez face. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres grandes évolutions au niveau des attentes? Il y en a probablement, mais c'est les principales qui me viennent en tête. Alors, ça induit quoi? Ça induit, vous l'avez compris, un changement peut-être de relation entre les jeunes et leur manager. Vous l'avez compris au vu de l'évolution des attentes que je viens de vous donner, on ne peut plus avoir de relation de type autoritaire traditionnel où un manager, entre guillemets, donne l'ordre et contrôle. Donc ça, c'est une forme de collaboration qui est difficile. Aujourd'hui, c'est vrai que là où les entreprises sont plus... on va dire là où pardon, les managers qui réussissent le mieux avec cette génération sont des managers qui sont sur un mode plus collaboratif, donc qui vont avoir tendance à... j'aime pas le mot collaborer, mais qui vont avoir tendance à travailler avec. Et d'ailleurs, c'est ce que me disent les managers. Ils me disent, on a l'impression qu'ils travaillent plus pour nous, ils travaillent avec nous. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que les managers qui s'en sortent, entre guillemets, sont ceux qui arrivent à créer un climat de partenariat entre eux et les jeunes de leur équipe. Voilà un peu. Je regarde l'heure qu'il est, je veux pas trop. Oui, je vais peut-être m'arrêter là. Donc merci à vous. Et...